comprendre, hein? Écoutez ça, l'histoire que je vous raconte ici, c'est vrai, ça vient de journaux. Un monsieur qui s'appelait Rafik Abdul Martland, long à comprendre qu'il avait besoin de changement dans sa vie. Rafik Abdul Martland avait définitivement besoin de réorienter sa carrière. À 38 ans, cet homme a réalisé que ce qu'il faisait dans la vie lui amenait trop de stress, d'autant plus que c'était tout simplement illégal. Martland avait commis une série de vols dans le comté de Hennepin au Minnesota. Après avoir été arrêté, il a été condamné à une sentence de 8 à 10 ans pour avoir fait des vols à main armée dans 8 commerces. Pendant toute la période des audiences, les médias lui ont donné le surnom de « du voleur au roll-aids ». Son surnom est venu du fait que chaque fois qu'il faisait un hold-up, il demandait le pistolet à la main, des capsules anti-acides, à savoir si le commis en avait derrière son comptoir. Son explication, Martland a dit qu'il avait besoin d'anti-acides à cause du stress qui lui venait des vols qu'il est en train de commettre. Décidément, il y en a qui sont longs à comprendre, qui ont besoin de changement dans leur vie. On a tous besoin de changement. Et honnêtement, si on vient à l'Église, c'est pour la gloire de Dieu. Progressivement, Dieu change notre cœur, mais c'est aussi parce qu'on veut que Dieu continue à opérer des changements dans nos vies. Progressivement, le Seigneur vient changer les motifs, et on veut que ces changements se fassent pour la gloire de Dieu. Mais on est tous conscients à quelque part qu'on a besoin que Dieu continue à nous transformer, à nous changer. À travers la série qu'on est en train de regarder, on prend comme inspiration les noms de Dieu, les différents noms que Dieu se donne à travers la parole. Et par ces noms, Dieu nous communique qui il est et ce qu'il veut faire dans nos vies. Le nom qu'on regarde ensemble ce matin se prononce à peu près comme ça, Jéhovah M'Kiddish, qui veut dire « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie ». On trouve ça dans Lévitique 20 au verset 8. Maintenant, écoutez bien. Sanctifier ou sanctification, ça signifie en réalité changement ou transformer dans la sainteté de Dieu. D'accord? Sanctifier, sanctification, ça signifie le changement, la transformation que Dieu veut opérer dans chacune de nos vies pour nous amener dans sa sainteté, à l'image de sa sainteté. Et pendant que je me préparais cette semaine, je pensais aux gens qui allaient venir ici dimanche matin. Puis je me disais, il y a toutes sortes de personnes qui viennent. Il y a des gens qui vont être là dimanche matin, et c'est le cas ce matin. Certains d'entre vous, vous êtes encore en recherche. Vous êtes ce qu'on appellerait des explorateurs de la foi. Vous êtes en train de vous poser des questions. Vous avez entendu parler de ce Dieu qui, paraît-il, fait des changements dans les vies, de ce Dieu qui est la vérité, puis vous êtes en train d'explorer ça. Vous êtes en train d'examiner à savoir si c'est vrai. D'autre part, évidemment, il y a plusieurs d'entre nous qui marchons avec le Seigneur depuis des années, certains 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'on marche fidèlement avec le Seigneur et Dieu, déjà, on a vu, a fait des changements dans nos vies. Il a fait des transformations. Et il y a plein de gens aussi qui sont à quelque part entre les deux, dans un processus à l'intérieur de ça. Ce matin, le sermon, la prédication s'adresse à chacun d'entre vous, à tout le monde. Évidemment, la bonne nouvelle qu'il y a dans le message de ce matin pour ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, c'est que Dieu est encore en train de vous transformer. C'est que vous êtes entré dans ce processus de changement, de sanctification, où Dieu veut vous transformer pour vous amener progressivement à l'image de Christ. Mais il y a aussi une bonne nouvelle là-dedans pour celui qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui est en train de se poser des questions. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de mettre toute ta vie en ordre pour venir à Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que tu viens à Jésus-Christ tel que tu es, et ensuite le processus de transformation commence. Et il y a des gens qui se méprennent là-dessus, il y a des gens qui ne saisissent pas ça, et qui se disent « je ne suis pas assez bon pour devenir chrétien », parce qu'ils fréquentent et côtoient des chrétiens, des gens que Dieu a transformés déjà depuis plusieurs années, ils comparent leur vie à cette vie-là, puis ils disent « écoute, je ne suis pas assez bon pour devenir chrétien ». J'espère que je ne me trompe pas en disant qu'aucun chrétien ici estime qu'il est assez bon pour être chrétien. C'est vrai? Ça prend juste quelques mois, quelques jours, quelques années de vie chrétienne pour que tu réalises que tu ne seras jamais assez bon pour être chrétien. Et que c'est juste la grâce de Dieu qui s'opère en toi, qui vient te transformer. Alors la bonne nouvelle, si tu n'es pas encore au Seigneur, mais tu es en train de te poser des questions, c'est que tu mets ça de côté, cette idée que tu dois mettre ta vie tout en ordre avant de venir au Seigneur. Non, tu entres, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, et le processus de transformation commence à ce moment-là. Dieu nous donne une promesse en ce sens dans 2 Corinthiens 5, 17. Il dit « Ainsi, celui qui est uni à Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. » Voyez-vous, une ancienne, ce qui est ancien est déjà disparu. Vous êtes une nouvelle créature dès que vous venez à la connaissance de Jésus-Christ. Vous êtes déjà une nouvelle créature. On est en train de parler ici de ce moment où vous passez de l'état de créature de Dieu à enfant de Dieu. Et c'est de ça qu'on parle, de ce moment où j'accepte Jésus-Christ et voici, déjà je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, j'entre là-dedans, ma vie ancienne est derrière moi. Déjà, on entre dans cette vie-là. Et Paul résume assez bien le processus de sanctification, un passage qu'on a cité à plusieurs reprises dans la série déjà. Dans Philippiens 3, les versets 13 et 14, Paul dit « Pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. » Attendez ça. « Pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. » Si Paul n'estimait pas l'avoir saisi encore, il y a quelque chose d'encourageant là-dedans pour moi. « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi, étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course. » pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel avec Jésus-Christ. Voyez-vous, Paul avait compris qu'il n'avait pas encore saisi le prix, mais il était engagé dans cette course, dans cette poursuite. À partir du moment où il a connu Jésus-Christ, il était engagé dans cette poursuite où Dieu veut opérer des changements pour nous amener à l'image de Christ. Dieu veut venir faire des changements en profondeur dans nos vies, dans notre cœur, et c'est ce processus-là dont on parle ce matin. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Avant d'aller voir ensemble comment on peut collaborer avec Dieu dans le processus, laissez-moi juste souligner deux fausses pensées. Deux pensées extrêmes qui sont pas plus bibliques l'une que l'autre et qu'on entend parfois sur la sanctification. Et soyez attentifs, vous allez voir, je les exagère un peu en les présentant, mais vous seriez surpris. Écoutez la suite ce matin et ça se peut que vous vous dites, des fois, dans le fond, je pense comme ça. Ou comme celle-là. Première pensée extrême qui ne représente pas la pensée de Dieu sur la sanctification, c'est la pensée que tout le processus de changement ne dépend que de Dieu. Tout dépend uniquement de Dieu. Ainsi, si je suis transformé, si Dieu me change, si Dieu me sanctifie, ça ne dépend que de Dieu. Tout repose uniquement sur la personne de Dieu. Toute la responsabilité est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Et donc, ce qui vient avec ça, c'est à quelque part, mais si je ne change pas, c'est de la faute de Dieu. Et si j'évolue pas, c'est parce que Dieu n'était pas là. Dieu a gaffé. Dieu n'était pas à la hauteur. Il n'y a pas à m'en tenir rigueur. C'est la part de Dieu, ça. Ça dépend de Dieu. Fausse pensée. C'est pas ça l'idée de Dieu. C'est pas ça la sanctification, le processus de changement selon les Écritures. Deuxième, qui est complètement à l'autre extrême, c'est l'idée toute simple qui dit, une fois que tu as dit oui à Jésus-Christ, que tu es devenu chrétien, toute la suite de l'histoire repose entre tes mains. Et là, ça dépend de toi, ça dépend de ton obéissance, ça dépend si tu es fidèle, ça dépend si tu travailles fort, ça dépend si tu es là. Et donc, ce que ça donne, c'est que la sanctification, la transformation, c'est quelque chose qui est entre tes mains. Et tu dois travailler fort, c'est beaucoup de travail, encore du travail. Tout est centré sur moi et mon obéissance. C'est moi qui vais arriver à ce processus de changement dans ma vie. C'est pas biblique non plus. La pensée biblique sur la sanctification, c'est qu'il y a une part qui relève de Dieu et une part qui relève de l'homme. La part de Dieu, c'est sa puissance pour nous transformer. Notre part à nous, c'est de collaborer avec Dieu, de coopérer avec Dieu. J'ai essayé de le résumer comme ça. Nous coopérons dans ce processus de transformation, mais c'est Dieu qui, par la puissance de son esprit, contrôle le processus. Nous, on coopère avec lui et c'est Dieu qui vient faire cette œuvre de transformation en nous par son Esprit Saint. C'est lui qui est au contrôle. Notre rôle à nous, c'est de coopérer avec Dieu, d'entrer avec lui dans le travail. Et si vous ne saisissez pas ça, je vous le dis, la vie chrétienne va être extrêmement lourde. Vous allez trouver ça lourd, ça va être dur, ça va être décourageant. C'est fondamental de comprendre, une fois que j'ai dit oui à Jésus-Christ, j'entre dans une œuvre de transformation. C'est Dieu qui est au contrôle, c'est par sa puissance. Mon rôle à moi, c'est de coopérer avec Dieu dans cette œuvre-là. Si vous ne saisissez pas ça, il vous manque un gros morceau de la vie chrétienne et vous allez vous empêcher de devenir la personne que Dieu voudrait faire avec vous. Parce que vous allez voir les choses autrement. Alors ce matin, on va voir ensemble cinq choses, cinq actions, idées ou manières dont nous, par lesquelles nous pouvons coopérer avec Dieu dans ce processus de changement. Ça, c'est ma part à moi. Comment est-ce que je peux coopérer avec Dieu alors que Dieu veut me transformer? Premièrement, reconnais que ta vie spirituelle est une grande aventure. Première étape. Reconnais que ta vie spirituelle est une grande aventure. Les changements que Dieu apporte dans nos vies ne se font pas tous en 24 heures. C'est pas vrai, ça. Ça se passe pas tout du jour au lendemain, ou lorsque tu dis oui à Jésus-Christ, bang, tout d'un coup, le lendemain, tu es une autre personne complètement, entièrement transformée. Et vous savez, il y a de ça dans certaines églises qui vont aller jusqu'à enseigner ça, où il y a un moment où tout est réglé, tout est fini. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est progressif, c'est une aventure. C'est davantage comme une expédition, un voyage à long terme dans lequel on est engagé avec Dieu. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Autrement, vous risquez de vous décourager. Autrement, vous allez devenir impatient. Dans Philippiens 1:6, Paul dit « J'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Encerclez dans vos notes ou dans votre Bible le mot « commencer ». Ça, c'est le début, c'est le moment où je dis oui à Jésus-Christ. Je dis « Seigneur, je suis pécheur. J'y arriverai jamais par moi-même, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi mes péchés. » J'accepte, je reconnais le sacrifice de ton Fils sur la croix. J'accepte par la foi, Seigneur. Ça, c'est commencement. C'est là que ça part. À partir de ce moment-là, on entre dans le processus. Vous pouvez encercler « poursuivra ». Ça, c'est tout le processus de sanctification. Ça continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait dans la présence du Seigneur. Dieu va poursuivre fidèlement son processus de transformation jusqu'au jour où on va aller dans sa présence. Et c'est tout un processus, ça prend du temps. Le problème, c'est que souvent, on est impatient. Souvent, on se comporte comme les petits-enfants. Lorsqu'on part en voyage, ça fait 15 minutes qu'on est sur la route, hein? Puis les enfants, ils commencent à dire, « On est-tu arrivé? Quand est-ce qu'on arrive? C'est long! » Puis souvent, on est comme ça. Avec les enfants, c'est normal, c'est une marque d'immaturité. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas une notion du temps. Ils ne saisissent pas comment ça va être long. Mais moi, je connais des personnes que j'aime. Je vous dis, je prie pour eux semaine après semaine. Qui se sont éloignés de Dieu, qui se sont éloignés de l'Église, parce qu'ils ont été impatients. Parce qu'ils passaient leur temps à dire, « On est-tu rendu, là? C'est-tu fini? Ça fait une semaine que je travaille là-dessus, Seigneur. Quand est-ce qu'on arrive? » Puis là, ils se sont découragés. Progressivement, leur question s'est transformée. C'est devenu, « Seigneur, ça marche-tu ton affaire, oui ou non? » Et puis, ils se sont éloignés. Certains d'entre eux, je prie pour eux. J'ai la conviction dans mon cœur que c'est des enfants de Dieu, parce que j'en ai vu revenir. Mais ils ont été impatients, ils se sont impatientés, ça n'allait pas assez vite à leur goût. Alors ils se sont éloignés de l'Église, des fois pendant des années. Quel détour! Et on va dans la prière, on n'a même pas de jugement. On est rempli de tristesse, puis on dit, « Seigneur, ramène-les, je t'en prie. » Quel détour! Juste parce qu'ils ont été impatients. Ça prend plus de temps que ça, des fois. Certaines choses vont prendre une vie, des fois, où Dieu va venir travailler, Dieu va venir nous façonner, Dieu va venir nous transformer. Mais vous savez, on vit dans une société où on est habitué à la gratification immédiate. On veut des réponses immédiatement, tout de suite. On veut tout, tout de suite. Et ça, ça vient jouer. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a été de longs siècles dans l'histoire de l'humanité où les gens comprenaient que les choses se faisaient lentement. Pour nous, tout va vite, vite, vite. Prenez-moi par exemple. La semaine dernière, je me commande un livre sur Amazon.ca, sur le net. Okay? 5 minutes. Clic, 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 2, 3 numéros. C'est commandé. Maintenant, il me le disait sur le site que ça allait prendre au moins une semaine avant que je le reçoive dans ma boîte à mal. Donc, c'était impossible que le livre soit dans ma boîte à mal avant le vendredi matin. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait lundi matin? J'allais voir dans ma boîte à mal, puis il n'était pas là, j'étais déçu. Mardi matin, je suis retourné, j'étais déçu, mais je le sais, je le veux tout de suite, j'ai plein de livres à lire. Mais ça a pris 5 minutes pour le commander. Normalement, avant Internet, ça m'aurait pris des semaines avant de l'avoir. J'aurais appelé la librairie, il aurait fait des recherches, je m'aurais rappelé. Des semaines. Mais là, vite, 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 vite. Puis je le veux tout de suite. Puis là, je suis déçu, je suis impatient. Je suis certain qu'il y en a plusieurs d'entre vous, quand vous allez vous acheter une canette dans une machine distributrice, si vous pouviez juste dire au Seigneur, « Regarde, Seigneur, tu veux-tu te détourner les regards un instant? » Je suis certain que vous avez juste le goût de brasser la machine parce que ça prend plus que 2,2 secondes avant que la canette arrive. On est impatient, on perd le contrôle. J'ai une confession ce matin. Combien d'entre vous, quand vous allez prendre l'ascenseur, vous pesez plus qu'une fois sur le bouton, puis vous pesez 5 fois, 10 fois sur le bouton, comme si l'ascenseur allait se dire, « Il y a quelqu'un de super pressé au 8e étage, je pense que je vais sauter le 6e, le 7e, il faut que j'aille là, il y a une urgence. » Voyez-vous, tout doit se faire immédiatement. Et il y a des gens qui s'éloignent du Seigneur pendant des années parce que ça prend trop de temps, ils sont impatients. On est-tu rendu? Quand est-ce qu'on arrive? C'est long! On voudrait que ça se passe maintenant. Et le problème, c'est qu'on ne comprend pas comment Dieu conçoit le temps. Dieu ne conçoit pas le temps comme nous, petits-enfants. Il conçoit comme des adultes qui connaissent la longueur du voyage. Notre rôle à nous, c'est de coopérer avec Dieu et de savoir que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, selon toute sa sagesse. On a juste besoin d'apprendre à être patient avec lui. Maintenant, il y a une bonne nouvelle à ça. Parce que si on n'est pas encore rendu, c'est ça la bonne nouvelle. On n'est pas encore rendu, les changements ne sont pas terminés. Dieu n'a pas terminé de me transformer. Si vous êtes marié, c'est encore une meilleure nouvelle. Parce que des fois, vous regardez votre conjoint, Esther, elle me regarde, puis elle commence à se dire, « Seigneur, si c'est ça le mieux que tu arrives à faire avec ce gars-là, on est vraiment dans le trouble. » Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur n'a pas fini avec moi encore. Esther, elle peut encore espérer en Dieu, Dieu encore, des changements qu'il va opérer en moi. On n'est pas encore rendu. Les transformations vont continuer à se faire progressivement. Mais j'ai besoin de réaliser que c'est un processus dans lequel je suis engagé. C'est une aventure dans laquelle je suis engagé. J'ai besoin d'être patient, de savoir que ça va prendre du temps. Dieu est fidèle. Sa part à lui, c'est de venir faire les changements. Ma part à moi, c'est de coopérer. Deuxième chose que j'ai besoin de garder à l'esprit, si je veux coopérer avec Dieu dans ce processus de transformation, je dois regarder constamment à la destination finale. Si je veux coopérer, je dois garder les yeux fixés sur la destination finale. Autrement, soit vous allez vous décourager, ou soit vous allez dévier du trajet. Vous allez commencer à être distrait, vous allez dévier du trajet, vous allez ailleurs. Et ça, c'est un principe de base lorsqu'on part en voyage. Chaque été, depuis quelques années, avec les enfants, Esther et moi, on va à l'île aux coudes. On aime l'île aux coudes. Puis lorsqu'on s'en va là-bas, on se rappelle de l'île aux coudes. Pendant le voyage, Bastien n'arrête pas de nous parler du traversier. En fait, toute l'année, Bastien nous parle du traversier. Puis quand on va arriver dessus, Bastien va dire la même question, il va nous poser la même question qu'à chaque année. Il va dire, « Papa, ça arrive des fois que les autos, ils tombent dans l'eau, hein? Qu'est-ce qui arrive quand les autos tombent dans l'eau? » Il rêve du traversier, Bastien. Il a hâte d'être dessus. Jade, pendant qu'on est en route, elle nous dit, « Papa, est-ce qu'on va faire encore un château de sable sur le bord de l'eau? Est-ce qu'on va le faire comme à chaque année? » Puis des fois, le trajet est long, des fois, les enfants sont malades, c'est difficile, ils commencent à s'impatienter. Mais nous, on se rappelle, on pense au chalet, on pense au coucher de soleil, on pense au moment où on va aller marcher sur le bord de l'eau. Voyez-vous, c'est ça qui nous aide à patienter. C'est parce qu'on a l'image de là où on s'en va. La destination finale est tellement claire dans notre esprit que ça nous aide à patienter, ça nous aide à persévérer dans le parcours. Maintenant, quand vous êtes chrétien, la destination finale, c'est Jésus-Christ. Votre destination finale, c'est de devenir comme Jésus-Christ. Dit en d'autres mots, c'est la sainteté, la maturité, la perfection de Jésus-Christ qui est votre destination finale. C'est là que Dieu veut vous amener. Paul le dit dans Éphésiens 4:13, il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Notre but, et le but de Dieu dans ce processus de transformation, dans cette grande aventure, c'est de nous amener à l'image de la stature parfaite de Christ. C'est ça la destination. C'est vers là qu'on s'en va. Et c'est ça que je veux garder à l'esprit constamment. De peur d'être découragé, de peur de détourner du parcours et de m'engager sur une mauvaise voie. Dans 2 Corinthiens 3:18, Paul le dit autrement. Il dit « Nous sommes transformés en la même image, parlant de Jésus-Christ, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » L'Esprit du Seigneur vient nous transformer progressivement en l'image de Jésus-Christ. C'est ça l'objectif, c'est notre destination. Et certaines personnes, pour perdre ça de vue, parce qu'ils oublient quelle est la destination, font des erreurs. Et une des erreurs qu'ils font, c'est qu'à un certain moment donné dans le parcours, ils désirent non plus devenir comme Jésus-Christ, mais devenir religieux. Ils désirent non plus devenir à l'image de Jésus-Christ transformé dans le cœur, mais ils embarquent dans un processus où ils se disent « il faut que je fasse ça, 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 ça. Si je fais ces choses-là, je suis correct, je suis dedans. » C'est pas ça la destination. Vous devez toujours viser à devenir comme la personne de Christ, transformé dans le cœur pour être un reflet de Jésus-Christ. C'est ça l'objectif qu'on vise. Quand j'étais jeune chrétien, j'étais extrêmement impressionné par ce que les chrétiens savaient faire. Et lorsque je rencontrais un chrétien qui était capable de me citer un paquet de versets des Écritures, boy, que j'étais impressionné. Je trouvais ça tellement extraordinaire. Je les mettais sur un piédestal. Ça, c'est quelque chose qui m'impressionnait énormément. Quelqu'un qui pouvait citer les Écritures super vite. Mais vous savez quoi? C'est possible que votre Bible soit complètement annotée, remplie de notes, plein dans les marges. Que vous soyez un crack de toutes les conférences de l'Église. Vous assistez à toutes les conférences. C'est possible de faire ça. Et en même temps, de vivre une vie qui dit, tu penses vraiment que je vais faire ça? Tu penses vraiment que moi, je vais m'humilier puis je vais aller pardonner à telle personne? Tu penses que moi, je vais marcher humblement devant le Seigneur? Tu peux rêver, mon homme. C'est possible de faire les deux en même temps, je vous le dis. C'est possible de faire les deux en même temps. Comprenez-moi, je vous aime énormément, j'aime l'Église. Je ne suis pas en train de dire que d'étudier la parole de Dieu, ce n'est pas important. Semaine après semaine, on revient sur l'importance d'aller étudier la parole de Dieu, de s'imprégner de la parole de Dieu, parce que c'est l'outil que Dieu veut utiliser pour façonner nos cœurs, pour nous transformer. Et Paul le dit très bien, on a besoin ensemble d'être fondés doctrinalement, de connaître notre théologie pour ne pas être emportés à tout vent de doctrine par toutes sortes de pensées qui viennent du monde, qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. C'est essentiel, c'est important. Mais la connaissance de la parole de Dieu doit absolument aller de pair, les deux ensemble, avec une vie qui est marchée humblement dans l'obéissance de l'auteur du livre. Une obéissance à l'auteur du livre. Vous voulez voir une vie transformée? Montrez-moi quelqu'un qui a réorganisé sa vie, qui a réarrangé sa vie, la manière qu'il instruit ses enfants, ses relations avec les gens autour de lui, ses relations avec son épouse, avec son époux. Autour des principes de la parole de Dieu. Là, vous allez me présenter une vie transformée. Montrez-moi quelqu'un qui choisit, lorsqu'il tombe seul, de continuer à marcher dans le droit chemin, même s'il est seul, parce que personne n'est là pour le regarder. Vous voulez voir une vie transformée? Montrez-moi quelqu'un qui, dans son quotidien, gère ses sous, gère les ressources, son temps, à la lumière des principes de la parole de Dieu. Montrez-moi quelqu'un qui veut être changé dans sa manière d'aimer les gens pour apprendre à aimer les gens comme Jésus les aimait. Ça, c'est tout un beau tableau. Ça, c'est une vie qui est transformée, où les principes de la parole de Dieu vont main dans la main avec un cœur humble devant Dieu, un cœur qui désire être sanctifié par le Seigneur. Et là, vous allez me présenter une vie qui est transformée. Ça, c'est notre destination finale. C'est l'objectif qu'on a. Et ça, ça prend du temps, c'est un long processus. Et on doit toujours garder en tête que notre but, lorsqu'on vient à l'Église, notre but, lorsqu'on prend du temps dans la parole, notre but dans la vie, à partir du moment où on devient chrétien, c'est de devenir à l'image de Christ. On étudie Jésus-Christ pas pour connaître un paquet de choses sur lui. Non, pour que ces connaissances-là, cette connaissance-là, viennent résider dans notre cœur et changer notre manière d'être pour être à son image, un reflet de la personne de Dieu auprès des gens autour de nous. Je dois accepter premièrement que le voyage va être long. C'est toute une aventure. Il faut que je sois patient. C'est un processus qui dure toute une vie. Deuxièmement, je dois constamment garder à l'esprit la destination finale, de peur de me décourager, de peur de dévier du parcours aussi, puis de commencer à embarquer là-dedans comme dans une espèce de religion, où je fais juste des choses pour les faire sans comprendre que c'est pour devenir comme Christ. Troisième manière de collaborer, de coopérer avec Dieu, fais appel à Dieu pour les obstacles sur ton parcours. Lorsqu'on s'engage dans une expédition, lorsqu'on s'engage dans une grande aventure, dans un long voyage, il y a des obstacles sur le parcours. Et chacun d'entre nous, nous avons de ces obstacles dans notre vie qui reviennent constamment et qui freinent le processus où Dieu veut nous transformer. C'est les mêmes, ils reviennent, ils sont là constants. Et j'ai besoin de faire appel à Dieu. Lorsque tu prends la décision de t'humilier, puis de crier à Dieu pour dire « Seigneur, je n'arriverai pas à changer ça par moi-même », tu vas beaucoup plus loin que ce qu'on fait généralement. Généralement, lorsqu'il y a un obstacle dans notre vie, lorsqu'il y a quelque chose qui pose un problème, on fait deux choses puis on s'arrête là. La première, on identifie le problème. La deuxième, qu'est-ce qu'on fait? On décide de prendre les choses en main puis on passe à l'action pour s'en débarrasser. C'est vrai? Généralement, c'est ça. Quand tu décides de faire appel à Dieu, tu vas beaucoup plus loin que ça. Imaginez un instant que le problème dans ma vie, on va prendre comme image une tarentule, d'accord? C'est mon problème dans ma vie. Il y a une tarentule dans ma vie. Alors, je suis en train de prêcher tranquillement, puis la tarentule s'en vient, puis elle commence à monter sur l'estrade par là-bas, puis vous, vous commencez à la remarquer tranquillement, ça se donne des coups de coude, puis vous commencez à regarder la tarentule. Moi, je ne la vois pas, je suis tout pris dans ma prédication, je ne la vois pas pantoute, puis tranquillement, elle s'approche, elle commence à me monter le long de la jambe. Mais tranquillement. Là, je commence à remarquer que le monde ne m'écoute pas tellement, je me dis, oh, il faut faire, je commence à parler plus fort. Peut-être faut que je crie. Mais vous, vous êtes tous en train de voir ça. Vous n'osez pas dire un mot de peur que je fasse le saut et que je me fasse piquer là. Fait qu'elle commence à monter. Mais là, finalement, j'allume qu'il y a quelque chose avec mon veston qui ne marche pas. Je vois la tarentule. J'identifie le problème. Première étape. Tarentule! Deuxième étape, qu'est-ce que je fais? Je passe à l'action. Comme une personne sage et mature, j'essaie de me débarrasser de cette affaire-là. Puis si je peux juste l'envoyer sur Vernon, le problème est réglé dans ma vie. Je me suis débarrassé de mon problème. Maintenant, comme tout problème dans nos vies, qu'est-ce que la tarentule va faire? Elle va pas s'occuper de Vernon, elle va retomber sur ses pattes. Elle va se tourner vers moi, elle va me faire un grand sourire, puis elle va refoncer sur moi. C'est ça que les problèmes font dans nos vies. parce que c'est des obstacles personnels. Elle va revenir comme ça, les problèmes reviennent constamment, 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 jusqu'à ce qu'on fasse appel à Dieu. Jusqu'à ce qu'on se tourne vers Dieu. Et qu'on supplie le Seigneur de venir agir par sa puissance dans nos vies pour venir nous libérer de ça. Souvent, on essaie de régler ces gros obstacles-là par nous-mêmes, par nos propres forces. Ou encore, lorsqu'on décide d'y accorder de l'attention, on espère que ça va être réglé en une heure, une journée, une semaine. On y accorde un peu d'attention, on met ça dans la prière, on va assister à une conférence, puis on dit « OK, c'est réglé, Seigneur ». Non, il y a des choses qui demandent un miracle de la part de Dieu, où Dieu va venir faire une transformation. En 2 Corinthiens 7:1, Paul dit, « Mes amis, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit, pour mener ainsi une vie pleinement sainte en révérant Dieu. » Regardez le mot « tout ». Tout ce qui corrompt, tout ce qui contamine votre vie. C'est quoi pour vous le mot « tout » C'est quoi ce tout dans votre vie qui contamine votre vie et qui vous empêche de vivre une vie sainte, qui va être à la gloire de Dieu? Avez-vous déjà fait une liste de ce que ça contient, ça? Moi, je vous encourage à faire une liste sérieusement, parce que si vous devez faire appel à Dieu, vous allez nommer ces choses-là. J'ai fait une liste pour moi. Ce n'est pas nécessairement une belle liste à voir. Mais je suis capable de dire toutes ces choses où j'ai besoin que Dieu vienne opérer un miracle dans ma vie. Comme celui est capable de le faire par sa puissance pour me transformer. Et pour ça, il faut vraiment désirer, devant le Seigneur, demander à Dieu de venir opérer ces changements-là. Est-ce que vous voulez aller plus loin? Franchir ces obstacles-là, au lieu de rester constamment bloqué, parqué, comme on dit en anglais, devant les obstacles, sur votre parcours, dans votre changement. Dans Éphésiens 4:22, Paul le dit autrement, il dit, « Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. » Votre ancienne manière de vivre, vous en débarrassez, parce que c'est rempli de désirs trompeurs. Et souvent, on le sait. Souvent, on le sait que, dans le fond, ça ne nous rendra pas heureux. Des fois, je parle avec des personnes. Et Dieu me permet, à quelque part, dans l'échange, de juste attirer l'attention, à diriger la conversation vers quelque chose où il me semble que Dieu veut faire quelque chose. Puis la personne va me dire, écoute, je le sais. Dans le fond, je sais que c'est en train de me bouffer par en dedans. C'est pas bon, ça me détruit. Ça mène à rien, ça mène pas à la gloire de Dieu. Souvent, on le sait. Mais parfois, on a besoin que Dieu nous amène au point où on reconnaît qu'on n'arrivera pas à se débarrasser de la tarentule par nous-mêmes. Et on va avoir besoin que Dieu vienne intervenir par sa divine puissance pour pouvoir nous libérer de ça, venir nous libérer de ces choses-là. Et on a besoin de s'humilier devant Dieu. C'est vraiment la partie où je vais dans la prière, puis je dis, « Seigneur, je suis capable de faire une liste, je le sais, je les connais, les choses que tu veux changer dans ma vie. » Je fais appel à toi, Seigneur, parce que avant d'être chrétien, j'essayais de régler ces choses-là par moi-même. Et Seigneur, je vais être comme la veuve avec le juge unique, parce que je veux ta gloire dans ma vie, Seigneur. Fait que je vais lutter avec toi dans la prière, puis quand je vais voir que tu es en train de travailler dans telle direction, je vais collaborer avec toi, Seigneur. Tu vas me montrer comment tu veux changer ces choses-là dans ma vie. Mais humblement, prendre le temps de reconnaître que vous êtes dans une situation où vous avez besoin de l'aide de Dieu. Et malheureusement, il y a des personnes qui ne veulent juste pas s'ouvrir les yeux là-dessus. Il y en a peut-être même ici ce matin, vous m'entendez parler, puis dans le fond de votre cœur, ce que ça dit, c'est « Ah, Yannick, c'est vraiment de valeur, tu ne sois pas capable de régler tes problèmes toi-même. Moi, je suis capable de le faire. C'est triste qu'il y ait du monde comme toi. » C'est vrai, il y a des gens qui pensent comme ça. Pour eux, la foi, c'est une béquille. C'est une béquille qui, pour les faibles. Vous savez quoi, ces personnes-là, avec un peu de tristesse, je leur dis « Vas-y, fonce, mon homme. Continue, force, travaille fort. » Continue, lis des livres. Continue à booster ton programme d'amélioration personnelle. Mais je peux vous dire, j'ai lu assez de livres, puis j'ai vu assez de vies où des gens luttent avec des péchés ou avec des obstacles dans leur vie, des choses que Dieu veut venir façonner, transformer, pour savoir que ça prend un miracle de la part de Dieu. Et ça prend ce moment où je vais m'humilier, puis je vais dire, Seigneur, viens le faire. Je vais être honnête avec moi-même, je vais être honnête avec Dieu. Dieu parle de ça dans Proverbes 28:13. Voici ce qu'il dit. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Est-ce que vous voulez voir la miséricorde de Dieu venir s'opérer dans différents domaines de votre vie? Ça vous demande premièrement cette honnêteté avec Dieu. Reconnaître que vous n'arriverez pas à le faire vous-même et que vous allez devoir appeler à Dieu pour qu'il vienne faire ce miracle de transformation dans votre vie. Ça se peut que ça prenne du temps quand même, ça se peut que ça prenne même des années. Mais vous n'êtes pas découragé, vous savez que ça relève à quelque part de Dieu. Vous luttez, vous marchez humblement quand vous tombez, vous demandez pardon à Dieu. Puis vous dites, Seigneur, viens le faire, j'ai besoin de ta puissance dans ma vie. J'y arrive pas, Seigneur, j'ai tellement essayé de foi moi-même, tout seul. Et vous dépendez de Dieu, vous criez à son aide pour qu'il vienne le faire. Quatrièmement, comment collaborer, comment coopérer avec Dieu? Apprends à renouveler tes énergies. C'est probablement ce qu'on répète le plus souvent, même à travers la série. Vous allez voir, c'est tout simple. Puis je vous le dis, c'est probablement la chose que, comme enfant de Dieu, on fait le moins fidèlement ou le moins souvent. Pourtant, c'est un élément tellement important. Quand on part dans un voyage, on a besoin de renouveler ses forces, on a besoin de renouveler ses énergies. C'est un peu comme lorsqu'on est sur la route, ça va super bien, puis tu croises à un moment donné une station-service. Tu regardes ton gauge à essence, il me semble qu'il y en a assez pour me rendre à l'autre, les enfants dorment, j'ai hâte d'arriver, on est capable. Puis là, avant même que tu t'en rendes compte, tu es dans le rouge. Puis là, tu commences à transpirer, tu commences à stresser, tu te demandes si tu vas arriver là-bas. Tu te dis, boy, j'aurais pas sauvé une seconde. Tu commences à être tendu. Moi, je commence à me dire, ma femme ne dira rien, mais Esther est en train de penser, j'y avais dit qu'il aurait dû arrêter. J'avais dit qu'il aurait dû arrêter. Puis là, je commence à être tendu. C'est pas une vie, ça. Comprenez, c'est pas une vie. La sagesse aurait été d'aller faire le plein. Et on a besoin de ces moments où on va se ressourcer dans la présence de Dieu. L'être humain a été créé pour fonctionner connecté avec Dieu, branché sur la personne de Dieu. Et on a besoin de ça constamment. David exprime ça dans le psaume 23, au verset 3, il dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » J'aime comment l'assommeur le rend. Regardez à l'avant, il dit « Il me rend des forces neuves. » Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. J'ai besoin d'aller renouveler mes forces. Si je réalise que le processus de transformation, c'est une aventure, ça va prendre du temps. Ça va prendre des années. J'ai besoin de renouveler mes forces dans la présence du Seigneur. Et ça, ça ne se fait pas juste avec un poste à essence à tous les dimanches. Vous voyez? Ou on en ajoute un à mi-parcours, le mercredi soir, on s'en va dans une assemblée maison. Non, c'est plus que ça. J'ai besoin d'y aller tous les jours. Pour moi, c'est passé, je vous le dis. Et les semaines où j'essaie de passer une semaine en me disant « Dimanche s'en vient, ça va faire du bien. » La semaine est longue, je suis tendu, c'est difficile. Je ne suis pas allé puiser auprès de Dieu la force qu'il faut pour pouvoir marcher à la lumière, la direction de son Esprit Saint. Alors que lorsque fidèlement je veux faire le plein, je veux me ressourcer dans la présence de Dieu, Dieu est là, renouvelle mes forces, me rappelle le focus. Je suis disponible pour que son esprit travaille en moi. Et ça, ça fait toute la différence. Et j'ai besoin d'y aller régulièrement. Je vous lis un long passage. Vous l'avez dans les notes, dans votre semainier. Je vous encourage à aller le méditer cette semaine. C'est simplement pour voir ensemble que les ressources sont là, elles sont disponibles pour pouvoir marcher fidèlement et se ressourcer. Dans 2 Pierre 1, les versets 3 à 8, Pierre dit... Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions de dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ses dons vous rendre conformes à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette même raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, les ressources sont là. Mais j'ai besoin d'avoir la sagesse d'aller faire le plein régulièrement parce que l'aventure va être longue, le voyage va être long. Dernier principe, je termine là-dessus. Dernier principe, pour m'aider à collaborer, à coopérer avec Dieu dans ce grand processus, ce grand voyage, marque une pause pour célébrer les progrès. J'ai fait de l'escalade quelques fois dans ma vie, puis à un moment donné, tu arrives à un point où tu as comme une fatigue. Il y a des moments de fatigue lorsque tu es en train de grimper. Et ce que tu as besoin de faire, tu as besoin de t'arrêter. Fait que tu trouves un moment où tu es confortable, tu t'accroches comme il faut, puis tu regardes en arrière. Puis là, c'est le temps de regarder en arrière. Pas quand c'est difficile, quand tu marques une pause pour célébrer les progrès que tu as faits. Tu regardes en arrière, puis tu dis, « Boy, on a avancé, on a fait tout ça, on est capable de continuer. » Mais certains d'entre vous avez besoin d'apprendre à rendre grâce pour les changements, les transformations que Dieu a fait dans votre vie. Vous devenez tellement obsédé par l'obstacle qui est devant vous, et vous avez tellement peu appris à rendre grâce pour tout ce qu'il a fait déjà dans votre vie, que vous êtes obsédé par ça, vous sombrez dans le découragement. Souvent, comme pasteur, des gens viennent nous voir et sont découragés. Et parfois, la seule chose qu'on fait, je vous le dis, on leur dit, regarde-moi, là, arrête de regarder là, regarde-moi. Là. Puis on les aide à regarder derrière et voir tout ce que Dieu a déjà fait dans leur vie. Parce que si vous êtes chrétien, Dieu a fait des changements dans votre vie. Vous avez besoin de vous en rappeler. Dans ma vie, à moi, une des personnes qui me le rappelle le plus souvent, c'est mon beau-père Émilien. Souvent, Émilien, il dit, Yannick, tu te souviens-tu de quoi tu avais l'air lorsqu'on s'est connus? Dans mon cas, ce qu'il y avait à l'intérieur, ça transparaissait pas mal à l'extérieur. Puis là, Émilien, il me dit, Yannick, c'est incroyable. Tout ce que Dieu a fait dans la famille pour vous transformer, c'est extraordinaire. Puis ça me fait du bien parce que ça me rappelle qu'à travers les milliards de personnes qu'il y a sur la terre, hein, Dieu est en train d'opérer des changements dans ma vie. Des fois, j'oublie ça, j'oublie de rendre grâce à Dieu. Je viens obsédé par ces affaires qui me semblent tellement difficiles à changer. Puis je me décourage, puis je suis déçu. Mais j'ai besoin de me rappeler de ça. J'ai besoin qu'on me rappelle que Dieu a fait des changements. J'ai besoin de m'arrêter, rendre grâce. Dieu fait des changements dans vos vies. Quand des gens viennent me voir après le service, des fois, puis ils me disent, Yannick, ce que tu avais ce matin, c'était exactement pour moi, je veux te remercier. Mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est Dieu qui a travaillé dans votre cœur pour disposer votre cœur à la parole de Dieu. Moi, je ne sais pas ce que les gens ont besoin. Je suis là dans mon bureau avec la parole de Dieu toute la semaine. C'est Dieu qui est en train de faire des changements dans votre cœur. C'est son œuvre. Rendez grâce à Dieu. Sortez d'ici et dites, Seigneur, tu as disposé mon cœur ce matin. Ton esprit est à l'œuvre dans ma vie. Je le vois, Seigneur, parce que je t'ai ouvert à ta parole ce matin. Quand vous êtes dans le trafic, quelqu'un vous coupe, puis vous faites un gros sourire, vous envoyez deux doigts comme ça. Louez le Seigneur. Là, un an, peut-être que vous auriez juste montré un doigt. C'est Dieu qui est en train de vous transformer. Je fais des blagues, mais c'est vrai. On a besoin d'apprendre à rendre grâce à Dieu. Puis juste dire, Seigneur, tu as fait des changements dans ma vie. Je sais que je suis dans une grande course, ça va être long. Et tu vas continuer à le faire, Seigneur. On a besoin d'apprendre à louer Dieu pour ce qu'il a fait. Et vous savez quoi? Il n'y a rien d'aussi encourageant que lorsqu'une personne vient vous voir, comme Émilien fait souvent avec moi, puis qui vient vous dire, j'ai vu des changements dans ta vie. Je termine avec une petite histoire. J'ai trouvé ça tellement touchant, puis c'est vrai, puis ça nous parle à quel point on veut que Dieu nous transforme pour l'impact que ça peut avoir aussi dans la vie des autres. C'est un pasteur, Lee Strobel, qui raconte, il se disait athée avant d'être chrétien, et puis il raconte sa propre histoire. Voici ce qu'il dit. Comment est-ce que j'ai vu la différence que Dieu a fait dans ma vie? Eh bien, ma fille Allison n'avait que 5 ans lorsque j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Et tout ce qu'elle avait connu de moi dans les 5 premières années de sa vie, c'était un père impie et rempli de colère. Je me souviens un soir être rentré à la maison et avoir fait un trou dans le mur, simplement par frustration contre la vie. J'ai honte en me souvenant de voir ma petite fille de 5 ans, Allison, se cacher dans sa chambre pour se sauver de moi. 5 mois après que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, cette même petite fille est allée voir mon épouse pour lui dire, « Maman, je veux que Dieu fasse la même chose pour moi qu'il a faite pour papa. » À l'âge de 5 ans, qu'est-ce qu'elle était en train de dire? Elle n'avait jamais étudié les preuves archéologiques concernant la véracité de la Bible. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'avant, c'était difficile de vivre avec papa. Mais de plus en plus, son père devenait une nouvelle personne. Et si c'est ça que Dieu fait aux gens, elle le voulait aussi dans sa vie. À l'âge de 5 ans, elle a donné sa vie à Jésus. Il termine en disant, « Dieu a changé ma famille. Il a changé mon univers. Et il a changé ma destinée éternelle. » Père Céleste, ô bon Père Céleste, combien d'amour tu manifestes envers nous, Seigneur. Parce que tu nous invites à toi, tu nous invites à venir s'agenouiller au pied de la croix pour reconnaître qu'on est pécheurs, sans même que tout le ménage ait été fait dans nos vies, Seigneur. Mais ton amour ne s'arrête pas là, c'est pas vrai. Ça continue tout au long de notre vie, Seigneur. Merci d'être tellement patient envers moi, Seigneur. Parfois, Seigneur, tu vois mon cœur et tu sais, je m'arrête puis je pleure sur ma propre condition, déçu de moi-même d'être encore si peu avancé dans la foi, Seigneur. Tu sais, toi, comment des fois je suis découragé. Et tu me rappelles, Seigneur, que je suis engagé dans cette course, que c'est toi qui vas venir manifester ta puissance. Et tu me relèves, tu m'encourages, Seigneur. Viens bénir ceux qui sont impatients, prêts à se décourager dès qu'ils tombent. Oh, donne-leur, Seigneur, l'humilité de reconnaître que c'est ta puissance qui va venir les transformer, pas leur simple détermination. Apprends-nous, Seigneur, à collaborer avec toi, à coopérer avec toi, Seigneur, à être disponible quand ton esprit nous parle pour travailler dans nos cœurs, pour adresser certains de ces grands obstacles dans nos vies, Seigneur. Donne-nous l'humilité de crier à ton aide, de faire appel à toi pour ces obstacles sur notre parcours. Oh Seigneur, donne-nous la sagesse d'aller se ressourcer jour après jour, renouveler nos forces auprès de toi, Seigneur. Merci pour tes bontés envers nous. Merci pour ta patience. Et Seigneur, fais que notre vie, transformée progressivement, soit un témoignage pour nos enfants, pour notre famille, pour les gens autour de nous, pour les gens à l'extérieur dans la communauté, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen.